Au tout début, je ne m'appelais pas comme ça, Véronique Bangoura. J'avais un autre nom, une toute autre gueule, un tout autre présage. J'étais à l'âge où l'esprit ne distingue pas encore la cendre de la farine, pour parler comme les mémés de chez nous. Je cognais moins fort que les copines, mais les dieux veillaient sur moi. Le devin, à ma naissance, avait eu la bouche heureuse. Je grandirais peinarde, invulnérable au sort, un Moïse sauvé des eaux, couronné de tresses et revêtu d'un pagne. Puis vint ce jour où je dus m'enfuir de chez moi en sautant du balcon. Tierno Monenembo est ce soir notre invité à l'occasion de son nouveau livre intitulé « Saharienne Indigo ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Gainsbourg. Dans quelle langue avez-vous été élevé, Tierno ?
Oh, dans deux langues au moins. La langue peul, qui est un peu ma langue de naissance, et la langue française, très vite après, puisque en général, ma mère me parlait en langue peul et mon père me parlait en langue française. J'ai deux langues en même temps, comme on a deux jambes ou deux bras en même temps, ou deux yeux.
Dans quelle langue vous exprimez-vous quand vous rêvez la nuit ? C'est en quelle langue ? En peul ou en français ?
Les deux en même temps. Les deux en même temps. C'est, pour moi, c'est pas, ce ne sont pas deux langues différentes, ce sont les deux faces d'une seule et même langue. Pour moi, la langue peul et la langue française, c'est la même langue.
Pourquoi ?
Parce que c'est ma langue à moi. C'est là-dedans que je suis né. Ce sont ces deux langues-là qui m'ont structuré.
Vous voulez dire que c'est vous qui avez créé un entre-deux langues dès la naissance ?
Ou alors c'est entre deux langues qui m'a créé.
C'est la langue qui vous a créé ?
Les deux langues. Donc la même langue française et peul, je suis né de ça. J'ai grandi là-dedans. C'est cela qui a fait ma mentalité, ma personnalité.
Et les rêves?
Aussi. Moi, je ne me vois pas rêver ou en pull en français, tu rêves dans les deux langues.
Où avez-vous vécu votre enfance, Tierno Monena?
Dans mon village, à Porédaka, à côté de Mamou, en Guinée.
Et pouvez-vous le décrire?
Oui, c'est un petit village de bergers peuls. C'est un vieux campement de bergers peuls venu du Massina au Mali au XVIe siècle, qui sont installés là, qui vivaient surtout de pâturage. Ce sont des éleveurs, un peu d'agriculture, surtout du maraîchage. C'est une région propice à l'élevage et au maraîchage. Fruits et légumes, beaucoup de fruits et de légumes. C'est une région aussi fortement islamisée. Je suis né dans une famille très musulmane, donc très vite j'étais fait de l'école coranique. Un village traditionnel africain, où c'est la routine, c'est la proximité, c'est la tradition. Je suis né là-dedans.
Quand en êtes-vous parti?
Très vite, à l'âge de 13 ans, à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'établissements scolaires en Guinée. On mutait les élèves comme on mute les fonctionnaires. On m'a muté d'abord à Cancan, en Haute-Guinée, où je suis resté quelques mois. Il y a plein de changements dans le système éducatif. Et on m'a ensuite envoyé à Zérékoré, en Guinée forestière, où j'ai vécu 3 ans, de 13 à 16 ans, 17 ans. Ensuite, je suis revenu à Conakry, Kindia, et puis j'ai vécu un peu partout en Guinée, au fil de mes études secondaires.
Aujourd'hui, vous y vivez encore?
Je suis revenu en 2012, plus de 40 ans après mon départ en exil. Depuis 10 ans, je vis à Conakry.
Pourquoi?
Oh, j'avais besoin de revenir au pays. Le pays me manquait, le pays m'a toujours manqué. Et puis, je commençais à vieillir, Je me suis dit j'ai surtout pas envie de me retrouver dans une caisse, dans une soute d'avion pour être enterré au pays natal. Mais il faut mourir là où on est né. Il y a une vieille tradition, une vieille légende en Afrique qui dit que les vieux éléphants reviennent mourir sous l'arbre sous lequel ils sont nés. Et moi, j'ai envie de mourir sous l'arbre sous lequel je suis né, l'arbre guinéen.
Qu'avez-vous retrouvé?
Pas grand-chose, on ne retrouve pas les choses. On ne retrouve pas un pays qu'on a quitté, c'est impossible. La vie est un changement, l'eau n'est jamais la même dans un fleuve, la sève n'est jamais la même dans un tronc d'arbre, le sang n'est jamais le même dans le corps humain. Tout change, donc je n'ai pas retrouvé la Guinée que je cherchais, la Guinée que moi j'ai connue, elle est morte. Une nouvelle Guinée est là, à laquelle je ne comprends pas grand-chose, et qui ne me comprend pas non plus. Mais ainsi va la vie, c'est un... La vie est une somme de malentendus.
Qu'avez-vous retenu de l'héritage peul à l'intérieur de votre rapport au monde?
Alors là, vous savez, l'héritage peul, il est presque mort, puisque les peuls se sont tellement islamisés qu'ils ont fini par jeter par-dessus bord leur véritable civilisation et leur véritable culture. Aujourd'hui, les peuls sont devenus beaucoup plus comme des musulmans que comme des peuls. Heureusement qu'on a eu Ampateba, qui a fait un travail remarquable de restitution de notre mémoire collective. Et c'est dans Ampateba que je retrouve ce que j'ai été, ce que furent mes ancêtres, que je connaissais pas. Là, oui, la culture qui est extraordinaire, une culture, elle est dans le travail d'Ampateba.
Mais
dans
vous la vie... voulez dire que votre propre culture, Tierno Monenembo, vous la retrouvez en lisant les pages d'un grand écrivain qui s'appelait Ampateba et qui a dit notamment que quand une personne âgée mourait en Afrique, c'était une bibliothèque qui brûlait.
Absolument, absolument. Et c'est lui qui entend de nous redonner, de réensemencer la culture perdue du peul. Nous sommes devenus des musulmans, nous ne sommes plus des peuls.
Oui, mais vous le disiez tout à l'heure, vos propres parents ont embrassé aussi la religion musulmane. C'est donc cette islamisation de la civilisation peul a commencé il y a longtemps,
Très longtemps, nous sommes des musulmans depuis pratiquement le XIe siècle. Et malheureusement, au fur et à mesure de l'islamisation, la culture d'origine s'est perdue.
Et pourquoi? Pourquoi il n'y avait-il pas compatibilité entre la civilisation peul et l'islamisation?
Moi, je pense que ça vient de la doctrine même de l'islam. L'islam dit qu'avant l'islam, il n'y avait que la nuit noire. Et tous les peuples qui sont islamisés ont eu tendance à jeter par-dessus bord ce qu'ils étaient avant l'islam. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils ont cassé des statues bouddhistes, quelque chose comme ça, etc. Les Arabes ne savent rien de leur histoire pré-islamique, ou très peu. Et les Perses, c'est pareil. Il y a une manière, dans les religions monothéistes, surtout en islam, que le monde commence là où le prophète arrive. Et ça, c'est un problème.
Comment avez-vous vécu l'école coranique et avez-vous réussi à vous en déprendre ?
Alors, j'ai vécu ça de façon très heureuse. J'ai un maître de Coran qui était un oncle un peu éloigné, qui m'a adoré. J'étais très brillant dans les études coraniques. J'adorais prier, j'adore le Coran. C'est un très beau livre, comme j'adore la Bible aussi. C'est un très beau livre. Et j'étais très heureux à l'école coranique. J'avais l'équilibre, j'étais heureux. J'aimais prier avec mon maître de Coran, avec ma grand-mère. J'adore prier. Et quand je prie, c'est pas forcément pour le bon Dieu, c'est surtout pour être proche de ma grand-mère et de mon maître de Coran. C'était pour moi une espèce de communion familiale. Mais en même temps, peut-être religieuse. Évidemment, entre-temps, j'ai beaucoup évolué. Je me suis frotté à d'autres pensées, à d'autres civilisations, à d'autres manières de penser le bon Dieu ou la vie quotidienne. Je ne sais plus le musulman que j'ai été dans ces années-là.
Mais vous êtes toujours musulman.
Je ne le sais plus. Je me pose la question.
Vous ne savez pas.
Je ne sais plus, j'ai devenu agnostique.
C'est votre culture, le Coran. Vous le lisez de temps
en
temps ?
Je le lis.
Vous le relisez ?
C'est le poème de l'histoire humaine. Comme la Bible, c'est le plus beau roman de la vie, toute l'histoire des livres. Je pense qu'il est très difficile, à mon avis, d'être un bon écrivain sans avoir lu et la Bible et le Coran. C'est difficile. Ou peut-être le Talmud. Je pense que si Faulkner est un excellent écrivain, c'est parce qu'il a très bien lu la Bible.
Eh bien, justement, nous allons vous proposer d'écouter la voix de William Faulkner. Nous savons que c'est un écrivain qui compte dans votre panthéon. Nous allons l'écouter en train de parler de la mission de l'artiste. Pour s'exprimer, un artiste doit-il être libre ? C'est une archive non sourcée de l'Institut National de l'Audiovisuel, mais on sait qu'elle date de 1962. Nous écoutons la voix de William Faulkner.
There's a strange thing in human nature. Once a man is successful in any line of craft, he is immediately assumed to be an authority on anything and everything connected with that line of craft.
C'est une bizarrerie de l'esprit humain. Dès qu'un homme a réussi en quoi que ce soit, sa parole se doit de faire autorité. S'il a réussi dans les lettres, il en devient apte à juger d'autorité toutes les activités humaines. Je me contenterai de définir ce que j'entends, moi, par liberté. C'est d'abord d'appartenir à une société pour qui la valeur de l'individu prime la raison d'État. C'est ensuite, pour l'individu, de croire qu'il vaut par lui-même plus que l'État, plus que n'importe quel groupe ou parti. Ainsi, l'artiste doit-il prendre au sérieux son art et non sa qualité d'artiste. Parce que j'écris des livres, ce qui doit me retenir, c'est mon aptitude à écrire des livres.
Nous venons d'entendre la voix de William Faulkner. Je sais que vous l'avez lu assez tôt, Tierno Monenembo. Comment vous a-t-il influencé et quel modèle représente-t-il pour vous aujourd'hui en 2022 ?
Pour moi, Faulkner, c'est une tentative d'écrivain.
Tentative seulement.
Absolument, j'ai essayé de m'expliquer. C'est un homme qui a compris très tôt la complexité de l'écriture et la complexité de l'être écrivain. Il a compris l'impossibilité d'écrire. À un moment donné, chaque fois qu'il écrit, il aligne des tablettes, c'est comme s'il alignait des points de suspension. C'est par là qu'il faut aller. Je ne sais pas jusqu'où, mais c'est par là qu'il faut aller. C'est très intéressant. En plus, il a complètement désorganisé toute une narrative. Le temps.
Un peu comme vous le faites dans votre dernier ouvrage.
Parfois, j'essaie de m'en inspirer, mais c'est pas facile de s'inspirer de Faulkner. Il est trop grand pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui a compris que la narration n'était pas forcément linéaire. Et qu'on peut comprendre des choses quand elles sont complètement décousues. Apparemment décousues. C'est jamais décousu chez lui. C'est très structuré. Mais l'apparence fait que ce n'est pas une histoire linéaire, une histoire racontée du jour au lendemain, de minute en minute, et une histoire datée en quelque sorte. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Faulkner. Je ne l'ai pas rencontré très tôt, j'avais déjà peut-être 22, 23, 24 ans, dans une cité universitaire à Abidjan, on crevait de faim, on vivait à côté des enfants du Biafra. On était des exilés guinéens, on faisait 5 jours sans manger. Et on allait sur la télévision, il y avait une salle de télé. Un jour, j'ai trouvé là un livre qui s'appelait « Le bruit et la fureur ». Il lui manquait 30 à 40 pages déjà. J'ai commencé à lire, mais je me disais, mais il se fout de la gueule déjà ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ce mec-là? Je n'y comprenais rien. Puis j'ai laissé tomber, you know, c'est la merde tout ça là. Puis j'arrive en France en 1973, j'entre dans une librairie, je vois ce livre. Je le lis, avec une préface de Coindreau, je crois. Et là, il a tout expliqué, j'ai compris, j'ai dit, mais merde, cet homme-là est intéressant. Je me suis mis à le lire, j'ai lu, tandis que j'agonie, Lumière, doute, etc., etc. Absalom. Et puis, une fois, j'étais à comment s'appelle cette ville, où là, dans le Mississippi, à Oxford. J'étais à Oxford, dans le Mississippi, j'étais visiter sa tombe, j'ai visité sa maison. Et j'ai vu il écrivait sur les murs. Il y a encore des restes de ses mégots, de ses boîtes de Jacques Daniel, de ses bouteilles de Jacques Daniel, sa canne à pêche, son fusil. J'ai regardé. Et puis, il y a un fauteuil, son fauteuil. Seuls les écrivains ont le droit de s'asseoir là-dessus. C'est incroyable. J'ai fait une photo là-dessus. C'est un homme extraordinaire, ce monsieur. Il est extraordinaire.
Ben vous voyez, ça vaut le coup d'être devenu écrivain, Thiernot Monnenembo. Oui, pouvoir s'asseoir sur le fauteuil de William Faulkner, c'est pas donné à tout le monde.
On m'a pris en photo sur le fauteuil de William Faulkner.
Encore faut-il savoir ce que ça veut dire être écrivain. Votre dernier livre sort ces jours-ci, s'intitule « Saharienne Indigo ». Et effectivement, il s'apparente à une structure narrative faulklérienne. Parce que il n'y a pas de continuité scénaristique, il n'y a pas de continuité géographique, il n'y a pas de continuité temporelle non plus. Il y a toute une sorte d'archéologie du temps que les lectrices et les lecteurs vont pouvoir reconstituer comme des puzzles et des blocs de perception, d'émotion, et se faire eux-mêmes leur propre récit. Est-ce que vous avez gardé de William Faulkner la définition du lecteur, c'est-à-dire celui qui compose, assemble, rassemble et peut éventuellement décrypter?
Oui, je pense que le lecteur est peut-être plus important encore dans ce travail-là que l'écrivain. Je pense que finalement, c'est le lecteur qui recompose le livre dans sa tête. Et oui, je pense que effectivement, l'écriture, c'est ce que ressent le lecteur, finalement. L'écrivain n'est écrivain que dans la tête du lecteur. C'est quand le lecteur est plus, l'écrivain est plus ou moins compris par le lecteur qu'il existe. Et comprendre Faulkner, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais j'ai tenté, après des années et des années, j'ai compris exactement son expérience. J'ai compris ce qu'il voulait faire. C'est une expérience tout à fait nouvelle, à mon avis. Il y a eu peut-être Joyce un peu plus compliqué, c'est encore plus inaccessible. Mais Faulkner, c'est extraordinaire parce que d'abord, c'est un homme qui a un rapport difficile avec l'histoire. Et je pense que les vrais écrivains ont tous des rapports difficiles avec l'histoire.
Ben vous aussi, hein, on
voilà, voilà, exactement, beaucoup. Ben, je pense que les vrais écrivains, ce sont les gens que l'histoire a vaincus. Cette malédiction du sud des États-Unis racontée par Faulkner, c'est l'histoire du vaincu. Et ça ne peut pas être autre chose dans les pays comme les nôtres. L'Afrique glissant adorait Faulkner à cause de ça aussi. C'est le roman du vaincu. Même si on a souvent accusé Faulkner d'être raciste, etc., etc., c'est possible d'ailleurs. C'était très difficile de ne pas être raciste dans les États-Unis à cette époque-là. Ce qui est très intéressant, c'est que chez Faulkner, le noir est présent. Il est même le moteur essentiel des romans. C'est par les noirs que l'histoire se rebondisse dans le roman de Faulkner. Et j'ai été visiter sa maison. Derrière, il avait une esclave, une boyesse. Il avait construit une maison pour elle derrière sa maison. J'ai visité cette maison-là aussi. Donc, il a une relation complexe avec la notion de racisme et avec la notion d'histoire.
C'est votre portable.
Voilà.
Vous pouvez répondre, hein, si vous voulez.
Non. Excusez-moi.
C'est William Faulkner qui vous appelle, non. En direct de sa tombe voilà, que vous avez visitée.
Vous voyez, donc, c'est cette complexité intéressante, puisque, à mon avis, on ne peut pas écrire, justement, un roman si on n'a pas une relation complexe avec la réalité. que ce soit la vie directe ou l'histoire ou la mémoire, ou alors avec les préjugés de son époque. Tout à fait, on est obligé de s'interroger. Et sans aucun doute, pour moi, le roman est le grand espace de l'interrogation. Et c'est pour ça que Voltaire devient pour moi très intéressant.
Vous définiriez-vous, comme vous venez de le faire pour William Faulkner, comme un artiste et un écrivain du côté des vaincus, pour dire ce côté des vaincus?
Oui, je pense oui, je suis vaincu, mais vaincu total. Je suis
vaincu total.
On m'a écrasé de partout depuis que je suis né, je n'ai jamais rien gagné, on m'a tout battu.
Comment ça?
J'ai jamais été du côté des vainqueurs. J'étais du côté des vaincus, des exilés. Et du côté, et puis l'écrivain, de toute façon, c'est un vaincu lui-même. Je pense que quand Romain Gary a une belle phrase là-dessus que j'ai oubliée, il parlait du vaincu comme l'être le plus fort, l'être le plus beau, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la phrase en tête. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vaincu se pose des questions. Le vainqueur n'a pas à se poser des questions. Il n'a pas écrit des romans, le vainqueur. Il a écrit une part d'histoire. Le vainqueur ne peut pas écrire une part d'histoire. Il écrit un roman. Il pose des questions, il interroge la réalité, il interroge la vie, il s'interroge sur lui-même. Et ça, c'est très bien fait chez Faulkner. Maintenant, quelle est l'attitude de Faulkner par rapport au racisme? C'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que les questions qui se posent sont profondes et très bien exprimées.
Est-ce qu'être écrivain, pour vous, Tierno Monenembo, c'est, comme le disait Maurice Blanchot, pouvoir trouver l'écriture du désastre?
Ah, certainement. On peut pas être guinéen et ne pas écrire sur le désastre. Le désastre, c'est quand même, à mon avis, c'est la chose la plus communément partagée par l'histoire humaine. Le désastre, nous est tous communs. Et effectivement, le roman, c'est le lieu où on peut le mieux parler du désastre. Lisez les romans, c'est la plupart du temps, il s'agit de désastre. Il s'agit de guerre, de génocide, de divorce, de maladie. C'est le malheur humain. Dans les romans. Le roman, c'est l'histoire du malheur de l'homme.
Quand avez-vous choisi d'écrire en français?
Je n'ai pas choisi. Je n'avais pas le choix. Pourquoi voulez-vous que je choisisse? Je ne pouvais pas choisir. La langue française m'est arrivée à la maison. J'étais tout petit. Mon père ne parlait qu'en français. Ma mère ne me parlait qu'en peul. Ma grand-mère aussi. Non, c'est ma langue. Longtemps, on a voulu penser, nous les Africains, nous avons le choix entre la langue du colonisateur et pas. Non, l'histoire ne se passe pas comme ça. La colonisation, c'est qu'elle est barbare, bestiale, mais la colonisation casse des liens et en crée d'autres. Et casse des réalités, crée des réalités nouvelles. La langue française, c'est ma langue.
Donc vous êtes un écrivain français, non pas un écrivain francophone.
Je suis les deux. Ou même les trois, ou les quatre, ou les cinq. Mais je veux dire que cette dichotomie en la langue africaine et la langue française ne passe plus. Tchekao Tamsi avait dit un jour, les gens s'étaient mis à se dire que la langue française nous colonisait. Tchekao Tamsi a dit, moi la langue française ne me colonise pas, c'est moi qui la colonise et qui lui fait dire ce que j'ai envie de dire. Donc il faut sortir de ça, la langue française c'est notre langue, c'est fini.
Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais nous avons préparé une archive de Chikayaun Tomsi, que vous venez de citer, sur l'utilisation de la langue française dans la littérature africaine. C'est une archive de Radio France Internationale du 23 mai 1989, la voix de Chikayaun Tomsi.
Le fait que j'écrive en français ne signifie pas pour moi de dire que la langue française est la seule et unique et possible l'expression dans mon pays ou même en Afrique. Il y a l'accident historique qui a fait qu'il y a des gens qui parlent français dans la périphérie où la France a exercé un pouvoir à un moment donné, mais cela n'empêche pas qu'il y ait une possibilité de renaissance des langues nationales pour qu'une nouvelle culture naisse. Mais ça, c'est les politiciens qui en ont décidé.
Alors nous venons d'entendre la voix de ce très grand écrivain, aujourd'hui d'ailleurs assez peu reconnu, trop peu reconnu, en tout cas en France. Cette archive date de mai 1989. Nous sommes en 2022. Les choses ont beaucoup évolué sur la perception justement des écritures, de la réappropriation de l'histoire, de l'impossibilité pour des Blancs de s'approprier la culture, des pans de la culture africaine, sur tous ces sujets qui sont compliqués, parce qu'ils sont recouverts d'une sorte de vernis idéologique et puis de déchirure en ce moment entre plusieurs groupes intellectuels français. Quelle est votre opinion, Tierno Monenembo?
Moi, je pense que
Pas la langue de l'oppresseur ni du colonisateur, le français, pour vous.
Au début, c'était la langue de l'oppresseur, la langue du colonisateur, bien évidemment. Mais cela se passe comme ça. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Le feu qui t'a brûlé, c'est celui-là même qui te réchauffera. » La colonisation est là, c'est un fait. C'est pas quelque chose, c'est barbare, c'est violent, c'est tout ce que vous voulez. Mais la colonisation est un fait historique. Qui est inscrit, je ne dirais pas dans nos gènes, mais au moins dans notre histoire. On ne peut pas nier la colonisation. Il fait partie aujourd'hui d'un des facteurs identifiants de notre histoire, de notre identité, de notre personne et de notre culture. Ceci dit, il faut à un moment donné aller dans le sens de l'histoire. Cette langue est là, on va la chasser comment? Et dans nos têtes, et dans nos, c'est la langue officielle de la plupart des pays africains d'ailleurs, anciennement colonisés par la France. Et cette langue est là, il y a d'autres langues qui sont là aussi. Évidemment, la langue française ne peut pas effacer les langues qu'elle a trouvées, mais en même temps, on ne peut pas l'effacer non plus. Il faut bien qu'on arrive à faire une espèce de synthèse entre les deux. Finalement, si on prend l'histoire des Gaulois, c'est quand même c'est la langue française et latine, non? C'est les Latins, c'était vos colonisateurs, c'était les colonisateurs de la France, de la Gaule. Et ça se passe comme ça.
Mais sur les problèmes de restitution culturelle, on le voit bien depuis maintenant 2 ans, notamment que le Musée des Arts Premiers à Paris est en train de rendre, à l'initiative d'ailleurs d'un rapport qui a été commandité à Felwinsar, sur proposition du président de la République, certains objets à certains pays qui les accueillent. On voit bien qu'on est dans un vent de compréhension et de perception d'une décolonisation active.
Culturelle.
Donc est-ce qu'elle passe aussi par la langue pour vous?
Par la langue, c'est beaucoup plus difficile que par les objets d'art. La langue n'est pas un objet. Ce n'est pas que ce qu'on saisit, qu'on vend ou qu'on restitue. La langue est un fait qui est inscrit dans la psychologie, dans la personne. C'est la langue, c'est immatériel, la langue, c'est autre chose. C'était difficile de chasser une langue ou de restituer une langue. C'est presque impossible. Voulez-vous que vous restituiez la langue française? À quel moyen je vais vous restituer la langue française? Je ne peux pas la restituer. Elle est là, moi. Je ne peux rien. Mais qu'on restitue les objets d'art africain, c'est une très bonne chose, puisque l'Afrique a effectivement besoin de reprendre en main ce qu'a fait son identité culturelle et son histoire culturelle. Ceci dit, il y a deux problèmes. D'abord, où les conserver après? Est-ce que l'Afrique d'aujourd'hui a des lieux aménagés pour conserver et présenter convenablement ces objets-là? C'est un problème.
Autre chose, et leur restituer leur signification traditionnelle et rituelle.
C'est ça le plus important. C'est la deuxième question que je voulais poser. C'est que ces objets étaient souvent des objets rituels. Le rite a changé ou a disparu. De retour en Afrique, ces objets auraient-ils encore la même signification? Je ne pense pas. Les peuples qui l'ont perdu les ont même oubliés, en quelque sorte. Ils n'ont pas été transmis oralement aux nouvelles générations. On ne sait pas très bien. On sait qu'en Guinée, il y a un masque baga qui a été perdu il y a très longtemps, qui est d'une grande valeur commerciale aujourd'hui. On ne sait même plus où il se trouve. Mais ce masque baga, mon Dieu, beaucoup de jeunes bagas ne savent même pas ce que c'est. Alors, il y a les deux problèmes. Retour de la signification rituelle, en plus la conservation de ces objets. Ce sont les deux problèmes qui se posent.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Tierno Monenembo, Conakry, de Kouyaté Sori Kandia.
1971. Vous me permettrez de signaler que je suis né le 22 septembre 1936. Donc, à l'anniversaire même de ma 35e année, c'est cette nuit-là que j'ai été arrêté à 1h du matin. C'est une date et une heure que je n'oublierai jamais.
J'ai été arrêté le 15 juin 1971. À 23h. J'ai été très surprise et déçue de me voir enfermée à la cellule 69 et mise à la diète pendant de longues journées. J'ai fait 6 ans, 6 mois et 6 jours en prison.
J'ai su, après 8 mois de prison et par des indiscrétions de nouveaux arrêtés, que j'avais été condamné à perpétuité. J'y ai vu des centaines de co-détenus qui provenaient de tous les horizons sociaux de la République, des ouvriers, des cultivateurs, des hauts fonctionnaires, des ministres, des artisans, des chômeurs. Il y a eu jusqu'à un moment, jusqu'à 30 à 35 Européens de tous les bords, puisque j'y ai vu des Tchèques communistes, des Bulgares communistes, des Belges non communistes mais socialistes, des Français de tous les bords, des Libanais.
Nous étions très nombreux au Cambouaro. Et je me rappelle qu'une de l'abbé particulièrement avait été torturée de façon qu'elle était restée 3 mois sans pouvoir attacher son pagne.
13 jours de diète. Il tenait à peine debout et ça faisait le 4e soir qu'il passait à la cabine technique. Je l'ai regardé et c'est là que je lui ai dit « Mais est-ce que tu n'avais pas lu Le Zéro et l'Infini et l'Aveu avant de venir ici ?» Il m'a dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je dis, mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans cette situation. Il m'a dit, alors tout ce que tu as raconté, ben, je dis, tout ce que j'ai raconté, c'est ce que tout ce que tu vas raconter, toi, ou alors mourons.
Nous venons d'entendre successivement Conakry, interprété par Koyate Sori Kandia, et puis un reportage de Radio France Internationale, qui nous permettait d'entendre les voix de toutes ces personnes qui, sous le régime de Sékou Touré, qui fut celui qui a donné l'indépendance à votre pays, Thierno Monenembo, et qui en réalisa l'indépendance, fut ensuite l'immense dictateur qu'on connaît. Votre livre, votre nouveau livre, sort ces jours-ci, il s'appelle « Saharienne Indigo ». « Saharienne Indigo », c'est le nom d'un policier qui porte des lunettes de soleil, une saharienne, et qui se balade dans l'espace public de Conakry sans apparemment rien faire, mais en même temps pour tout surveiller, dans le but d'emprisonner. Ce roman magnifique commence par In Memoriam. Il s'appelle Amadou, Gilles, Mamadou, Yaké, Alimou, Amidou, Nénan, Baba, Bari, Tanou, Kaou, Jan, Nénan, Dindou, Moussa, Abdoul, Jo, Docteur Pinta, Selou. C'est important de dire tous ces prénoms-là, je crois, Thierno Monenembo. Et vous terminez cet exergue de ce nouveau livre en disant « ce livre est écrit pour les victimes du camp B ». Ce camp B, une des femmes, nous venons de l'entendre, vient de l'évoquer. Que s'est-il passé à Conakry et comment et pourquoi Sékou Touré, le premier libérateur de l'indépendance en Afrique équatoriale, en ex-Afrique équatoriale française, est-il devenu ce dictateur?
Comment devient-on dictateur? Je pense que tout le monde le sait. C'est une dérive. L'ego, le goût du pouvoir personnel, c'est cela qui fait qu'on devient dictateur. C'est tout le fait un héros au début, en 1958. Et tout le monde l'adorait. Unanimement, la Guinée était derrière lui. Ensuite, il a cultivé le complexe du dirigeant qu'on ne doit pas contester. Les intellectuels sont forcément des contestataires. Les intellectuels se posent des questions. Ils sont formés pour ça. Et les dictateurs n'aiment pas les questions. Ils n'aiment pas qu'on les contredise. Et de là, il a commencé à imiter un peu Staline en Union soviétique, devenu un petit Staline tropical. Il a créé une psychose de générale. Tout le monde était suspect a priori. Même les paysans, même les fous. En Guinée, on a même enterré, emprisonné des fous, des enfants de 14 ans. Et Sékou Touré a tué 50 000 Guinéens. Notamment au camp Boiro, c'était pas le seul camp, mais c'est le principal camp. Il tuait par cynisme, il tuait par jet noir. La jet noire, c'était qu'on vous emprisonnait dans une cellule, on vous y laissait 15 jours, sans boisson ni nourriture. On venait regarder par la lucarne, si vous bougiez encore, quand vous ne bougiez plus, on vous ramassait pour vous jeter dans une fosse commune. C'est ça la jet noire. Et les pendaisons publiques. Si vous faisiez danser la population, sous les pendus, on mettait des bâtons dans les pantalons des cadavres à Conakry. Voilà ce qu'on a vécu pendant des années et des années, 26 ans environ. Et c'est un peu ça que j'évoque dans ce roman. Le camp B, c'est le camp Baro, bien évidemment. Et c'est un sinistre camp, une d'Auschwitz tropical. Et Sékou Touré reste aujourd'hui beaucoup plus un sanguinaire, un tyran, que l'héros qu'il a été dans les années 50. Et Kouyaté, le professeur Baba Kouyaté, un grand historien guinéen, a dit que c'était le héros et le tyran. Et pour moi, il est beaucoup plus tyran que héros aujourd'hui.
À l'intérieur de votre nouveau texte, donc intitulé « Saharienne Indigo », il y a l'histoire principale, parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi parallèles, de deux femmes que rien ne réunit en apparence, mais qui vont se retrouver dans une rue de Paris. Et petit à petit, au cours du cheminement du mouvement de l'écriture, nous allons, nous lectrices et lecteurs, nous apercevoir qu'en fait, elles ont beaucoup de choses en commun. Et parmi ces choses en commun, elles ont la mémoire. Une d'elles a une mémoire extrêmement douloureuse parce que quelqu'un de très proche dans son univers familial a disparu dans ce camp B et elle n'a jamais su si cette personne était encore vivante ou pas, si cette personne, si elle était morte, avait été enterrée et si jamais elle avait été enterrée, si elle pouvait se recueillir sur sa tombe. Est-ce que cela est l'écho d'une vérité historique, Tierno Monenembo, ou est-ce justement l'imaginaire de l'écrivain?
Il y a les deux. L'écho de la vérité historique est là. Il est très facile, à mon avis, de trouver en Guinée des équivalents des personnages que je mets en scène dans ce roman. Madame Corr, il s'agit de celle-là, cette dame française, qui a laissé en Guinée un enfant dont le mari a été pendu sous ses yeux et qui cherche à savoir si son fils vit encore ou pas. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît en Guinée. Toutes les Françaises mariées avec des Guinéens, à cette époque-là, des Guinéens qui ont été arrêtés et exécutés au camp Baro, ont été chassés de Guinée et leurs enfants ont été récupérés par la révolution de Sékou Touré. Ils ont dit à ces femmes qu'ils n'ont pas le droit de ramener leurs enfants. C'est des enfants guinéens, que ces enfants ne leur appartenaient pas. J'en connais des dizaines comme ça. Et j'ai eu une professeure de sciences naturelles, Madame Souma, qui a vu qu'elle-même, son mari était un ingénieur, il a été exécuté en Guinée, elle a été chassée, elle a laissé tous ses enfants en Guinée. Je n'ai jamais plus entendu parler de cette femme. Est-elle devenue folle? S'est-elle suicidée? Vit-elle encore? Je n'en sais rien. Parce que le camp Baro, c'est le camp... quand vous quittez là, quand vous avez des problèmes avec le camp Baro, vous vous taisez. On ne parle pas de ça. Il y a quelques jours, j'ai vu un vieil...
Encore aujourd'hui,
il y a quelques jours, à Conakry, j'ai vu un vieux qui est venu vers moi. Il m'a dit, j'ai fait 12 ans au Kambaro. Il rase les murs, il en a presque honte. Quand on vous torture, on vous dénude, on met des appareils électriques dans vos parties génitales, c'est humiliant. On n'en parle pas. Quand vous allez votre enfant au négligé de votre mari, vous n'en parlez plus. Et ce que je dis dans le roman, les mutilés ne friment pas, on ne crie pas sa honte sur les toits. Et c'est ça, ce roman, c'est aussi le roman du silence. Parce que la torture, c'est le silence. Les victimes sont silencieuses.
D'ailleurs, cette femme, Madame Corr, met beaucoup de temps à oser dire ce qui la tourmente.
Non, elle n'ose même pas dire son vrai nom. Elle a presque disparu en tant qu'individu. Madame Corr n'est pas son nom. Elle a pris ça comme ça pour se protéger de quelque chose. Elle n'ose pas en parler, mais elle aimerait que l'autre, que la jeune fille, en parle, elle. Voilà, il y a un jeu assez terrible entre les deux. Parce que Madame Corr veut que Véronique Bangoura raconte sa vie. Elle devine sa vie, puisqu'elle est guinéenne. Mais elle n'ose pas en parler. Alors, la fille lui répond, mais pourquoi vous n'en parlez pas alors, vous? Voilà, c'est le non-dit. Vous savez, écoutez, regardez le génocide des juifs dans les camps allemands. Qui a écrit là-dessus, à part Primo Levi? Presque personne.
Robert Antelme.
Peut-être. Mais je veux dire qu'on n'en parle pas. Ça devient, je dirais pas une honte, mais un non-dit. Eh bien, le Kambaro, qui est beaucoup plus petit, beaucoup moins dramatique que ce qui s'est passé sous Hitler, mais c'est encore un non-dit. On n'en parle pas. On en souffre.
On n'en parle pas en Guinée, pays où vous êtes revenu vivre, Thierno Monnenembo.
On n'en parle pas.
Mais est-ce que les politiciens de Guinée en parlent? Et quelle est la mémoire qu'a laissé Sékou Touré? On sait que début septembre 21, il y a eu un coup d'État dans ce pays et qu'un lieutenant-colonel a pris le pouvoir. Qu'en est-il de la mémoire collective de Sékou Touré aujourd'hui?
Pour les Guinéens, dans la majorité, Sékou Touré est beaucoup plus aujourd'hui un tyran qu'un héros. Mais le système en place vient de réhabiliter Sékou Touré. Il vient de donner à l'aéroport de Conakry le nom de Sékou Touré, sans jamais avoir réhabilité les victimes. Sans avoir rien fait, aucun geste pour calmer les victimes et permettre à leurs veuves et à leurs orphelins de faire leur deuil de cette histoire terrible. Et ça, c'est quelque chose de terrible.
Thierno Monnenembo, vous êtes un écrivain depuis extrêmement longtemps. Je crois que le premier livre s'intitulait « Crapaud Brousse ». Vous avez adopté plusieurs registres d'écriture, mais il y a dans plusieurs de vos romans, à l'intérieur de votre œuvre, une destination, une fonction, je crois, mémorielle. Vous avez écrit un livre magnifique sur les tirailleurs sénégalais. Vous avez écrit un livre aussi absolument remarquable sur la présence de personnalités africaines dans le mouvement de la résistance française, qui est une histoire encore aujourd'hui trop méconnue. Je vous propose d'écouter la voix d'un grand écrivain africain, hélas aujourd'hui un peu trop oublié lui aussi. Il s'appelait Amadou Kourouma. Il va nous parler du fait d'écrire. Qu'est-ce que veut dire écrire? Est-ce que ça veut dire s'opposer? Peut-être. Faire réfléchir? Peut-être. Mais est-ce que ça veut dire pouvoir faire tomber les dictateurs? Écoutez sa réponse. C'était dans l'émission Une vie, une œuvre, à la voix d'Amadou Kourouma.
Écrire est une façon de s'opposer, c'est de présenter la réalité pour que les gens réfléchissent à cette réalité. C'est peut-être ça. Mais c'est certainement pas l'écriture qui peut faire tomber un dictateur. C'est pas l'écriture qui peut amener à avoir le pouvoir. Mais comme on ne peut rien faire, on se contente de ce qu'on peut.
On se contente de ce qu'on peut, disait modestement Amadou Kourouma. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à l'intérieur de vos cycles romanesques, Thierno Monnenembo, il y a vraiment la fonction essentielle de l'écriture. D'abord, c'est de restituer le passé pour pouvoir habiter le présent et peut-être comprendre et espérer en un avenir commun. Et il y a aussi le fait de livrer des pans de notre histoire beaucoup trop méconnus et qui ne sont pas transmises aux jeunes générations dans les livres d'histoire.
Forcément, je pense que la littérature en Afrique, doit remplir la fonction que les historiens n'ont pas osé ou voulu remplir. J'ai l'impression que le vrai problème de l'Afrique, c'est la mémoire, c'est le trafic de la mémoire. Beaucoup plus dangereux que le trafic des institutions ou que le trafic de drogue. La mémoire est trafiquée chez nous, notamment la mémoire des indépendances. L'indépendance guinéenne, son histoire n'est pas écrite. Ce qui a fait que Sékou Touré a tout pris pour lui. Alors qu'on aurait pu l'écrire, parce que c'est des faits d'hier, c'est dans les années 50, ces trucs-là. Il y a des radios, il y a des émissions de radio, il y a des journaux. On peut écrire ça correctement. L'indépendance algérienne, c'est pareil. L'indépendance du Congo, du Zimbabwe, tout.
Vous avez fait un livre aussi sur l'Algérie.
Voilà, exactement. Toute l'histoire de nos indépendances est trafiquée. Ce qui donne la porte ouverte à tous les aventuriers, à tous les fétichistes, à tous les petits dictateurs, à tous les apprentis dictateurs. Et on en est là parce que nos historiens n'ont pas fait leur travail. Ils ont passé leur temps à polémiquer avec l'Occident sur des sujets sans importance. Il faut qu'ils nous racontent notre histoire. C'est quand on aura eu en tête notre véritable histoire qu'on finira par se comprendre. Et pourquoi pas se pardonner? Il faut bien un jour qu'on se pardonne, mais il faut quand même déjà qu'on sache ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas fait encore. C'est au roman, c'est à l'écrivain de pallier à cette insuffisance. Et je pense que le roman est en train de faire ce travail-là, le roman africain, parce que le roman africain est préoccupé par la notion de mémoire. Indispensable chez nous, la mémoire chez nous, elle est trafiquée.
À l'intérieur de votre dernier roman, Tierno Monenembo, il y a l'histoire de cette jeune femme. Cette jeune femme, on va pas tout raconter, on va simplement dire qu'elle va réussir à s'émanciper de son propre père qui a essayé de la violer pour pouvoir vivre et accomplir sa propre liberté. Mais ce roman se déroule aussi dans un moment où cette indépendance vient d'arriver et où la corruption bat son plein. Est-ce que vous pensez, dernière question, que la littérature et vous, à travers votre œuvre à la fois d'historien du passé proche et en même temps d'artiste de la mémoire collective, est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour accéder à la vérité de votre propre pays sans tamis, sans grilles et sans clichés?
Alors là, ce sera très difficile, bien évidemment. La vérité en tant que telle, ça n'existe pas, mais on peut tendre vers la vérité. On peut faire en sorte que les Guinéens se préoccupent de leur mémoire collective, qu'ils travaillent à l'assainir, qui travaille à sa diffusion, à sa compréhension. Je pense qu'il n'y aura pas d'avenir pour le pays sans cela. C'est impossible. Je pense que si l'Europe continue encore, malgré beaucoup de cataclysmes historiques, à fonctionner, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait le travail de mémoire. Le travail de mémoire a été fait, notamment au niveau de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a fait son travail de mémoire là-dessus. On ne peut pas le nier. L'Allemagne d'aujourd'hui a fait son boulot là-dessus. Il faut que nous aussi, Africains, on puisse faire ce travail-là. Qu'on puisse faire le bilan de nos indépendances. On ne peut pas passer la vie à critiquer le colonisateur. Le colonisateur a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a fait après? On a presque fait pire ou autant au moins. Donc il faut bien qu'on se le dise, il faut qu'on se regarde dans une glace, qu'on fasse le bilan de nos indépendances. Ils sont des indépendances catastrophiques. On a parfois l'impression que nos dirigeants étaient aussi catastrophiques que les colonisateurs eux-mêmes. J'avais un ami écrivain congolais qui me disait, tu sais, Tierno, ces gens, parlant de nos dirigeants, ils sont racistes, ils n'aiment pas les nègres. C'est un peu ça. J'ai l'impression que nos dirigeants sont encore plus racistes que les colonisateurs. D'être plus les nègres que les colons blancs eux-mêmes.
Merci infiniment, Tierno Monenembo. Je rappelle que votre dernier livre s'intitule « Saharienne Indigo » et qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Mero perto lo, sei dom, non gigorgono. Que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Philippe Jeanne qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Marie Mougin et Marie Clément, à Élodie Royer et Céline Villegas et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka pour la suite de son Very Good Trip.